Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Heureux de vous retrouver pour une saison d'informations locales sur l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs sur le 88.4, bien sûr. Nos invités du jour, Bertrand Mesure d'abord, qui est co-secrétaire départemental du SNIPP-FSU, syndicat d'enseignants du primaire. Il sera avec nous pour parler de la rentrée des classes à Trappes, rentrée qui s'est passée jeudi dernier. Si vous avez des enfants, vous le savez, ça c'est sûr. Tania, bénévole à Artisans du Monde Saint-Quentin-en-Yvelines, qui organise ses portes ouvertes ce samedi, donc le 11 septembre à Guyancourt. L'occasion pour Tania de nous parler notamment de la déforestation importée. Qu'est-ce que c'est ? Elle nous explique ça en seconde partie d'émission. Les chroniques de Marmite Fesson, l'actu sont toujours au rendez-vous, avec bien sûr l'actualité du cinéma Le Grenier à sel, avec le grand retour de Gaël Pinault. La minute conso de Pierre Joanet, et Pierre nous donnera quelques conseils pour respecter la chaîne du froid. Voilà, quand vous faites par exemple des achats du surgelé, le flash d'actualité locale, c'est à 17h30. Allez, comme à notre habitude, on écoute un petit morceau musical et on revient juste après avec Gaël pour parler cinéma. A tout de suite. Feel that rhythm. My dude's breaking it down for ya. Sax machine. Crash kick, this most cat method math manual mode. They must miserably mask it. Stepping back, shit, time hasn't kept him back. They so intense, with no defense, it's not the best attack. While the rest intact, remain the best at back. The reign of the brain, the bane, plainly they less than lack. Infected fact, invest in vast. Connects the next net worth and perks fast, just like collecting cash. 1251, the rebirth of effective Nash. Reinventing intent to reset and then set this blast. Hold at the gas, press lesson unlike your past. Incessant upon your passion, recessions with fellow has-beens. The haps in Vegas might have been the haps in Aspen. Strip traps, you trapped in how to get past, I'm asking. If axe is aspirin, is this grip I'm grabbing? And this time slips won't happen. Realign, be aligned with the rhythm as I redesign, redefine what is written, and I'd be inclined to resign to the symptom, cause I'm re-reminded of the times in the system, and I'm realign, be aligned with the rhythm as I redesign, re-refine what is written, and I'd be inclined to resign to the symptom, cause I'm re-reminded of the times in the system, and I'm not as deep on the outer mean streets in the hour, bringing heat to the cowards. Discreet as a shower with the freak and the power, make a peak like a tower till she reek like a flower. Things haven't changed that much, it's like the grass on your craft when you make time, but time it ain't mine. Rhymes don't mind, they sign up with a dateline. Playmates pull from their waistline, another straight crime. Ricocheting with the name on it unknown. Hate the player, hate the fact that they gone and they grown. Truth, ugly thing, ain't it physical proof? Ugly zone, tainted stainies, lovely clones. Painted plain, camo, no chamomile feels. I am slept ammo, mine as deadly as a set scandal. Or step in black and white, more bubbly monochrome. As loud as that line of Zion, subtly monotone. Be aligned with the rhythm as I redesign, re-refine what is written, and I'd be inclined to resign to the symptom, cause I'm re-reminded of the times in the system, and I'm realigned, be aligned with the rhythm as I redesign, re-refine what is written, and I'd be inclined to resign to the symptom, cause I'm re-reminded of the times in the system, and I'm. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h en direct pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Allez, tout de suite, c'est l'actualité du cinéma Le Grenier à sel.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaël.
Et le grand retour de Gaël Pinault.
Ah, ça m'avait manqué ce petit...
Ouais, ça t'avait tellement manqué que j'allume pas ton micro. Voilà, là tu peux parler.
Ah bah je disais que ça m'avait manqué. Ah oui, c'est mieux. Ouais.
C'est mieux.
Il m'avait manqué ce petit jingle, oui.
Voilà, c'est ton petit jingle. Fait par une personne très sympathique. Oui, qui n'est autre que ma compagne. Alors, qui nous écoute peut-être. Ça va Gaël ?
Oui, ça va Nouradine, merci.
Alors, comment ça s'est passé ces vacances ? Raconte-nous un petit peu avec toutes les actus du cinéma Le Grenier à sel.
Oh là là,
on parlait de la programmation.
Ah là là, effectivement.
Alors, tu vas me demander si j'ai deux heures, c'est ça ?
Non, je vais, j'ai bien conscience, je vais être efficace. Eh ben, c'est comme tout le monde, hein, tous les trois jours, il fallait changer son fusil d'épaule. Hein, on a imprimé un programme en juillet, on a imprimé un programme pour le mois d'août en anticipant. On était contents de pouvoir anticiper notre programmation et on avait annoncé qu'on accueillait les personnes, les spectateurs sans passe dans la limite de 49 places. Et notre programme était imprimé. Sauf que le 9 août, tout a changé et qu'il faut le passe pour tout le monde et il faut scanner tout le monde. Donc les spectateurs qui ont passé l'été à voir ce message sur notre grenier à sel ou dans nos programmes n'y comprenaient plus rien. Mais bon, c'était... c'est pas de notre fait, mais c'est quand même des choses à assumer. Donc le pass sanitaire, voilà, ça y est, je pense que c'est tout le monde l'a compris. Le pass sanitaire est obligatoire pour aller dans les cinémas, y compris le grenier à sel. Il n'y a plus de limite de jauge, 49 places ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est toutes les personnes de plus de 18 ans doivent avoir un pass sanitaire valide.
Jusqu'au 31 septembre. Hein. Après, c'est même à 12 ans, c'est ça ?
C'est ça. Après, ça passe à 12 ans. Le masque reste obligatoire en salle à partir de 11 ans. En plus, les âges changent à chaque fois, à chaque consigne. Mais par contre, on peut s'asseoir côte à côte sans problème. Oui, on peut s'asseoir. J'ai commencé ça. On peut s'asseoir au cinéma. C'est bien. On n'est pas obligé de rester debout sur le long du mur.
Heureusement, prochaine étape. On va regarder des films debout. Ça va être sympa, ça.
Et voilà, donc le pass sanitaire est obligatoire, ça se passe plutôt bien, les spectateurs sont compréhensifs, même si on en a certains qui décident de repousser leur venue, mais ça se passe très bien dans l'ensemble. On est ouvert, on a des séances, on a des films, il y a pas mal de films qui ont plutôt bien marché dernièrement. Donc on s'était pas vu, on s'était pas parlé, mais il y a Kaamelott qui a très bien marché chez nous. Je m'y attendais pas, mais Pas de Patrouille qu'on a passé la semaine dernière, Pas de Patrouille que moi je ne connaissais pas, mais que les enfants visiblement connaissent tous.
Tu t'attendais pas à ce que Pas de Patrouille
fonctionne autant. Ah, fonctionne, si je savais
c'est
que ça plairait,
carton,
que ça
les enfants adorent.
Là, les enfants qui sortaient de l'école, qui passent devant le cinéma et qui voient l'affiche de Pas de Patrouille, ça les rend dingue.
Alors Pas de Patrouille, pour ceux qui connaissent pas ou qui ont pas d'enfants, c'est des petits chiens.
Et qui ont des véhicules.
Ils ont des véhicules. Ils sont pompiers.
Super véhicules.
Et puis ils vont sauver des gens.
Voilà, avec une rampe de lancement, c'est fantastique. Bon, alors cette semaine, voilà, je vais vous parler des films pour enfants aussi, parce qu'on en a un qui est assez attendu aussi. C'est Baby Boss 2. Ça s'appelle Une histoire de famille. Vous vous souvenez de l'histoire de Baby Boss où un bébé prenait le contrôle de la famille. Et là, on a ce baby boss du premier épisode est devenu grand et il est évidemment un homme d'affaires, un patron d'un fonds spéculatif même carrément, et il a il découvre un nouveau baby boss dans sa famille, ouais. qui apparaît, c'est une jeune fille, et nous conseillons ce film à partir de 6 ans. Nous avons aussi, vous vous souvenez du film Un Triomphe que l'on avait passé au mois de juin en avant-première?
Non. Avec notamment un trappiste.
Avec notamment un trappiste, oui, qui s'appelle Lamine Sissoko, qui joue un des premiers rôles du film, dans lequel il y a aussi Cadmera en tête d'affiche. Donc, on avait fait une avant-première au début du mois de juin, dans le cadre du festival de reprise de Télérama. Ouais. Donc, Lamine était venu avec pas mal de ses amis qui jouent aussi dans le film. C'était une fantastique soirée. Et donc, le film, on l'a depuis mercredi dernier en sortie nationale. Donc, on l'a encore cette semaine. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, il s'agit d'un... Cadmerade incarne un acteur de théâtre qui vient mener les ateliers dans une prison.
Ouais.
Et ces ateliers fonctionnent tellement bien, et il leur fait jouer du Beckett quand même, et ils fonctionnent tellement bien qu'ils vont aller monter, ils vont aller sur les planches dans de vrais théâtres. Donc ils ont l'autorisation de sortie, et puis ils font un peu le tour de France de tout ça. Donc c'est quand même sur le ton de la comédie, même si on voit un petit peu tout le derrière de toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir tous ces gens-là, que ce soit les détenus ou les acteurs. Et c'est vraiment bien, peut-être parce que il y a des bons acteurs dedans. Voilà. Et on a deux autres films dans la semaine, cette semaine. Nous avons Les Fantasmes qui est, comme son nom l'indique, on va suivre six couples qui viennent explorer les faces cachées de leur vie intime. Alors il y a une pléiade d'acteurs dans ce film qui incarne ces six couples. Hein, c'est réalisé par les frères Funkinos et on retrouve Karine Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzi Bedia, Monica Bellucci, Carole Bouquet, etc. etc. Et c'est plein de scènes truculentes. Et le dernier film de la semaine, ça s'appelle Drive My Car, c'est un peu notre coup de cœur, c'est carrément notre coup de cœur. Drive My Car, c'est un film qui était présenté en compétition au Festival de Cannes. Il a eu le prix du meilleur scénario, et il a aussi eu le prix des cinémas réessais. Et c'est adapté d'un recueil qui s'appelle Des Hommes Sans Femmes, d'un japonais qui s'appelle Haruki Murakami.
Ouais.
C'est l'histoire d'un homme qui a du mal à se remettre d'un drame personnel. Il est acteur et metteur en scène et il se retrouve dans une ville où il a des... Alors je ne sais plus s'il a des ateliers ou s'il crée un spectacle, je ne sais plus ce qui se passe exactement. En tout cas, on lui met à disposition une voiture avec un chauffeur. Le chauffeur est une jeune femme avec qui, pendant les voyages, il crée un lien, ils échangent sur leur vie et c'est... Alors, on parle pas d'une histoire d'amour, hein, on parle vraiment d'une histoire très personnelle et c'est très très beau, c'est très très fort. Ça s'appelle Drive My Car.
Ah, ça, c'est un coup de cœur, ça, pour toi.
J'aime beaucoup ce film et je vous le conseille encore une fois. Bon, je prends deux minutes parce que faut que je vous parle aussi de prochainement. Donc ça, c'est tous les films de la semaine. Voilà, bientôt.
Il y a un petit festival sympa la semaine prochaine.
Bientôt, nous accueillons un festival. C'est pas la semaine prochaine, c'est un petit peu plus tard.
Un peu plus tard, oui.
Festival auquel on assiste depuis plusieurs années, ça s'appelle Play It Again. C'est un festival de films de patrimoine. Et cette année, nous avons la chance exceptionnelle, ça fait des années qu'on l'attend, on a la chance d'avoir In the Mood for Love qui ressort en cinéma, en copie, restaurée, 4K, etc. Formidable. Et qui nous avons invité un intervenant qui est un journaliste pour venir nous le présenter. Ce sera dans le vendredi 24 septembre. Nous avons aussi Bébert et l'Omnibus que nous conseillons à partir de 7 ans. Et c'est réalisé par Yves Robert qui avait fait les 400 coups. Pas n'importe quoi, les 400 coups, c'est pas du tout ça. La guerre des boutons.
Oui, parce que si tu attendais que je te souffle un truc sur le cinéma...
Ah, c'est bon, je l'ai en tête. La guerre des boutons. Et il y a... Vous vous souvenez d'un petit personnage dans La guerre des boutons qui s'appelle le petit Gibus, qui est un petit peu foufou et très rigolo. Eh bien, cet acteur, le petit Gibus, est le personnage principal de Bébert et l'Omnibus. Et d'ailleurs, il est crédité comme s'appelant le petit Gibus. Et nous avons aussi La Bandera, qui est le premier film le film qui a révélé Jean Gabin. Voilà, ça c'est les films de patrimoine que nous passerons à partir du 15 septembre. Mais nous avons avant le 17 septembre un documentaire qui s'appelle Inde Galante sur l'opéra
de Lully.
Non, pas de Lully.
Je dis une bêtise.
Je sais
Rameau,
que ça.
Rameau.
De Rameau. Merci beaucoup, Nouradine.
Tu vois, en cinéma. Sans fiche, hein.
Ouais, sans rien. Donc en cinéma, tu connais un peu plus en opéra finalement qu'en cinéma. Donc oui, de Jean-Philippe Rameau. Et là, c'est un opéra qui a été créé à Bastille avec des danseurs de danse urbaine, donc crump, hip hop, etc., break. On suit la création du spectacle et c'est formidable, c'est très prenant comme documentaire. Et il sera présenté aussi par un journaliste, auteur, enseignant qui s'appelle Benoît Basirico. Donc c'est le 17 septembre à 20h30. Bien sûr, j'ai été un petit peu vite. Et puis à la radio, on n'a pas les images et tout ça. Donc je vous conseille, si vous voulez en savoir plus, d'aller regarder sur notre site internet cinemagrenierassel.fr.
.com.
Et aussi .com, les deux marches.
Les deux marches, ouais, super. International de Grenier à Sel. Donc cinemagrenierassel.fr. Merci Gaël et à la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
Il est 17h passé de 15 minutes. Allez, on accueille tout de suite notre premier invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Bertrand Mesure est avec nous. Bonjour Bertrand. Ah, on n'entend pas Bertrand Mesure. Décidément, je suis très bien réglé aujourd'hui. On va allumer tous les micros. Bertrand, est-ce que ça marche ?
Je ne sais pas, tu m'entends ?
Non plus. Et là ?
Appuie sur le bouton rouge.
Il est rouge.
Il est rouge pourtant. Et là, toujours pas ?
Non, je peux essayer un autre micro.
Oui, alors on va essayer un autre micro en attendant. Non, ça fonctionne pas. C'est peut-être juste un problème. Voilà, on va échanger les deux micros.
Est-ce que c'est mieux comme ça ?
Voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour Bertrand.
Bonjour Noradine.
Co-secrétaire départemental du SNIPP-FSU, donc syndicat d'enseignants du primaire, avec nous pour parler de la rentrée des classes, donc qui s'est passée à Trappes, comme dans tous les autres coins d'ici, donc le jeudi dernier, toujours dans un contexte de crise sanitaire. La première question, Bertrand Mesure, globalement, sans rentrer dans le détail, comment s'est passée cette rentrée dans ce contexte un petit peu particulier ?
Bon, la rentrée, on va dire, s'est passée. Les élèves avaient déjà pris des habitudes avant de partir en vacances, les professeurs aussi et les enseignants aussi. Donc on va dire qu'on s'est inscrit dans une forme de continuité qui, si elle n'est pas satisfaisante, en tout cas, a le mérite d'être là. Donc je ne peux pas dire une rentrée normale, mais une rentrée qui s'est effectuée de façon plus sereine, plus habituel, si je puis dire, que l'année dernière, même si la sérénité n'est pas au rendez-vous.
Mmh. Alors justement, quelles consignes sanitaires les écoles ont-elles reçues pour cette rentrée ? Voilà, on a eu plusieurs sons de cloche, des écoles, quelques-unes qui disaient qu'elles étaient prêtes, mais bon, la plupart des écoles qui disaient quand même qu'elles étaient un petit peu dans le flou. Comment ça s'est passé au niveau des consignes sanitaires ?
Alors, le ministère, pendant les vacances, a produit un protocole sanitaire qui est sur quatre couleurs. Quatre couleurs vert, jaune, orange et rouge. Et donc, en fonction de ces couleurs, les consignes sanitaires peuvent évoluer, que ce soit la possibilité de conserver un masque à l'intérieur ou pas, enfin d'avoir un masque à l'intérieur ou pas, ou d'en porter un au moment de la récréation, etc. Donc actuellement, nous sommes en situation en couleur orange, qui permet un certain nombre de libertés, donc nous allons évoluer en fonction de ces différentes couleurs et en fonction d'une évaluation qui est faite à la fois par l'ARS, à la fois par le ministère de l'Intérieur et qui tous les vendredis permet de réactualiser les informations concernant l'évolution de l'épidémie et éventuellement ce qui peut motiver des changements dans la couleur du protocole concernant les écoles et les collèges et les lycées, bien entendu.
Et comment, ouais, allez-y Bertrand.
À noter que pour l'instant, il n'y a pas de différence suivant les secteurs. C'est-à-dire que si on regarde les taux d'incidence, par exemple, ils peuvent être assez différents, par exemple, sur une académie comme la nôtre, ils peuvent être assez variés. Mais pour autant, il n'y a pas de différence d'appréciation dans la couleur qui permet de déterminer le niveau de protocole.
Et du coup, comment vous, enseignant, comment vous gérez ça est-ce que... Bon, je ne vais pas répondre à votre place, mais ça ne doit pas être évident à gérer quand même, surtout avec des évolutions. Vous savez que en ce moment, ce qu'on entend de la part du gouvernement ou même dans les médias principaux, c'est que les enfants vont peut-être être un peu plus surveillés que précédemment, qui sont peut-être plus facteurs de transmission. Voilà, est-ce que ça joue aussi?
Alors,
dans... Voilà.
Les enfants, depuis l'apparition du variant Delta, ont un taux de contamination qui est plus élevé. Donc, qui dit taux de contamination dit plus élevé, dit aussi risque de transmission plus élevé. Donc, le parti pris de cette rentrée, ce qui n'a pas été le cas tout au long de l'année dernière, a été de dire qu'à partir du moment où il y a un enfant qui est malade qui est positif dans une classe, en élémentaire, en maternelle, l'ensemble des élèves de la classe sont systématiquement éloignés pendant une période de 10 jours et ils ne peuvent pas revenir à l'école. Voilà, donc c'est une lourde charge pour les parents. C'est le protocole et les enfants ne seront pas accueillis le lendemain de la découverte de ce fait-là. Le jour même, eh bien, les parents qui peuvent venir chercher les enfants viennent les chercher. Sinon, ils les récupèrent après l'école, mais le lendemain, ils ne peuvent plus les mettre à l'école. Alors, c'est sûr que ça va produire pas mal de tensions, parce que c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, c'est le protocole qui a été adopté, et le fait que les enfants soient plus contaminés, donc plus contaminants, voilà, ça a produit cet effet-là. Maintenant, ce qui est positif, c'est que la rentrée s'est passée. Donc ça, c'est positif, hein, puisque si on regarde, par exemple, les DOM, ça a été beaucoup plus compliqué, hein, puisqu'on a eu des confinements très, très forts. Hein, et puis certains, je crois que la Martinique et la Guadeloupe ne sont toujours pas rentrés. Je crois qu'ils rentrent le 13 septembre. Donc voilà, on a fait une rentrée. Cette rentrée est encore un peu particulière. Hein, je pense en particulier aux petits, pour lesquels normalement seul un parent peut accompagner au sein de l'école, ce qui est quand même toujours difficile. Le fait aussi que les parents ne sont plus maintenant accueillis dans l'école parce qu'ils doivent rester à la grille, tout ça, ça fait un climat quand même particulier qui n'est pas propice à la sérénité qu'on doit attendre au moment d'une rentrée.
D'ailleurs, puisque on parle de crise sanitaire, on a vu que les professeurs n'avaient pas d'obligation vaccinale, hein, n'étaient pas obligés de se faire vacciner. La justification d'Olivier Véran, donc ministre de la Santé, chez nos confrères, je ne sais plus chez quel confrère, je crois que c'est chez BFM TV, disait que le corps enseignant n'était pas inclus dans cette obligation vaccinale parce qu'il est... je le cite, « au contact de personnes qui ne sont pas fragiles, un enseignant est au contact d'enfants qui ne sont pas à risque de faire des formes graves ». Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cela ? Et surtout, est-ce que les parents vous ont fait des remarques en disant est-ce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez vacciner ? Est-ce qu'il y a eu des petites... est-ce qu'ils ont un peu peur pour leurs ouailles, pour leurs petits protégés ?
Moi, je n'ai pas eu ce type de retour. Hein, sur l'ensemble du département, on ne l'a pas eu. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est remonté au niveau académique. C'est particulier. Là aussi, hein, ce qui est dommage, c'est que le gouvernement n'ait pas pris ses responsabilités. C'est-à-dire... dire que si les gens ne sont pas vaccinés, ils vont pouvoir faire certaines professions, mais pas d'autres. Tout ça est extrêmement complexe et très difficile à comprendre. À l'éducation nationale, il y a un certain nombre de personnels qui doivent malgré tout, qui ont une obligation vaccinale. Ce sont les personnels médicaux, les médecins et les infirmiers ou infirmières scolaires. Et ce sont également les psychologues de l'éducation nationale. Donc, eux sont obligés d'être vaccinés et...
Excusez-moi de vous couper, Bertrand, mais comment ils justifient ça ? Que le psychologue doive se faire vacciner, mais pas l'enseignant ?
Alors, je ne sais pas.
Normalement, le psychologue voit moins d'élèves, puisque c'est souvent un face-à-face.
Alors, c'est parce que, en fait, la justification réglementaire, on l'a eu hier par un médecin, c'est que ces trois professions sont des professions réglementées. Voilà.
D'accord.
Donc, elle rentre dans un cadre de profession qui est particulier. Et je n'ai pas poussé plus loin la démarche, mais c'est le fait que ces trois professions soient réglementées qui fait qu'au sein de l'éducation nationale, ces personnels sont obligés d'être vaccinés. Donc, ceux qui ne le sont pas vont recevoir un courrier, nous a-t-on dit hier, et vont être incités à le faire dans les délais, de façon... même si, manifestement, la pression ne sera pas très forte dans un premier temps. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire sur l'obligation vaccinale. Chez nos collègues, beaucoup d'entre eux se sont vaccinés, parce qu'on a eu quand même des collègues qui ont été malades, parfois très malades, et qui ont encore beaucoup de séquelles, et de fait, ça a incité les autres à peut-être se vacciner. Hein. On a eu des collègues qui se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Et de même, les collègues qui sont vulnérables, alors la vulnérabilité est une notion qui évolue, mais qui est la même qu'au mois de juin, les collègues qui sont vraiment vulnérables ne viendront pas travailler dans les écoles, les lycées et les collèges.
Pas en présence en tout cas, ils travailleront chez eux à distance.
Ouais. Ils restent chez eux et ils travaillent à distance.
Ce qui complique un peu peut-être l'organisation aussi.
Ce qui complique beaucoup l'organisation. Les premiers retours qu'on a, alors c'est pas tellement sur le premier degré, mais sur le second degré, en particulier au lycée, c'est que commencent à s'organiser des enseignements hybrides avec présentiel et distanciel. ce qui peut poser des problèmes. Hein. C'est très compliqué quand un enseignant est dans une classe, et c'est quasiment impossible de faire les deux en même temps. Et puis, d'autre part, on a aussi une particularité dans le second degré, c'est que les élèves, les adolescents qui ne sont pas vaccinés et dans lesquels il y aura un cas déclaré, devront avoir un enseignement distanciel, alors que ceux qui sont vaccinés pourront venir. C'est une notion qui est quand même très curieuse, puisque si on reprend l'ensemble des traités qui sont les lois supérieures de l'ensemble des nations, c'est de dire quand même que le droit de l'enfant à avoir une scolarité est un droit vraiment imprescriptible et que c'est quelque chose qui doit s'imposer. Donc,
et c'était d'ailleurs la tonalité des déclarations gouvernementales, même avant le pass sanitaire.
C'était la tonalité,
sacralisation de l'enseignement, disant qu'on passait au-dessus de tout, que nous, on se vantait d'être les pays, un des pays qui a le plus scolarisé, qui a le plus gardé les enfants à l'école avec cette crise sanitaire. Puis là, c'est un peu le... Voilà.
Mais ceci dit, moi je trouve ça tout à fait curieux, étant donné qu'en plus les grands pratiquent les gestes barrières et portent des masques. Enfin voilà, tout ça. Un petit point d'information sur l'Académie de Versailles. Hier, on nous a annoncé qu'il y avait 66 classes qui étaient fermées au titre du Covid, donc en élémentaire et en maternelle.
Alors que la rentrée a eu lieu jeudi.
Déjà, voilà. Ce qui représente, pour donner un ordre d'idée, dans les Yvelines, il y a 975 écoles, donc après, à multiplier
par le nombre de classes. Bertrand Mesure est notre invité sur Marmite FM 88.4, co-secrétaire départemental du SNIPP-FSU, syndicat d'enseignants du primaire. Une dernière question, juste avant de passer au flash d'actualité locale. On continuera après notre entretien. Je vais vous faire écouter votre ministre, hein, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et je vous explique après pourquoi je vous passe cet extrait. On écoute.
Éventuellement être capable de donner plus à ceux qui ont besoin de plus, mais de le faire de manière plus ciblée.
Mais il n'y a pas de fraude réellement.
C'est pas une question de fraude, c'est
non,
la
mais de
façon
détournement.
Vous...
Est-ce qu'il y a une grosse...
On sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc bien sûr qu'il peut y avoir qu'on peut regarder ça de cette façon-là. Donc des bons d'achat, ça peut être intéressant, mais on a aussi besoin d'aider financièrement les familles.
Mais ça peut être un enjeu de la campagne présidentielle.
Voilà donc extrait de Jean-Michel Blanquer interrogé par nos confrères de France Info. Alors je ne vous ai pas diffusé cet extrait pour le commenter Bertrand Mesure, mais plutôt pour vous demander ce que vous pensez du fait que cette remarque de Jean-Michel Blanquer ait occupé tout l'espace médiatique au détriment peut-être des nombreux problèmes de fond que rencontre l'éducation nationale et surtout à l'approche à quelques jours seulement de la rentrée.
De toute façon, on connaît bien Jean-Michel Blanquer et puis depuis, on va dire, une quinzaine d'années, on connaît bien cette façon qu'ont les hommes politiques. Hein, on avait été habitués avec Emmanuel Valls. On connaît bien cette façon de lâcher quelque chose dont on sait que ça va susciter une polémique et puis après de noyer ses responsabilités politiques dans la polémique qui va surgir et que la plupart des médias que l'on connaît bien, BFM TV, CNews, etc., ne manquent pas d'alimenter, même si tout le monde... Enfin, là, je dirais pas tout le monde, je dirais que les gens qui vendent des télés ont bien précisé que les mois d'août et de septembre étaient ceux, justement, où on en vendait le moins.
Mais surtout qu'on ne dit pas en écran plat, mais bon, ça, c'est...
Voilà. Mais je me permets quand même de rappeler ce que... Un petit proverbe qu'utilise une collègue qui a l'habitude de travailler au cycle 3 pour un peu éduquer leurs enfants, ses enfants à la précision de la langue française. Elle a l'habitude de dire « on est un prénom imbécile qui qualifie celui qui l'emploie ». Donc, je pense que ça suffit pour exprimer un peu la façon dont Monsieur Blanquer, ce que dit Monsieur Blanquer doit être perçu.
On va parler justement, juste après le flash d'actualité locale, des problèmes de fond et notamment de cet appel à une mobilisation pour le 23 septembre. Vous restez avec nous, Bertrand Mesure, tout de suite. Le flash d'actualité locale, il est 17h30. Nouvelles élections municipales donc à Trappes qui auront lieu les 10 et 17 octobre suite à l'annulation par le Conseil d'État des élections municipales de 2020 pour cause d'irrégularité. Les candidats en lice donc pour cette nouvelle élection municipale, Ali Rabet, donc maire sortant pour Trappes Respire, Othman Nasrou et Mustapha Larbaoui, donc le duo pour l'engagement Trappes Citoyen, Luc Miseret qui mènera bien une liste Trappes à gauche, Robert Nagheritinan, candidat sans étiquette, il s'était présenté d'ailleurs au départemental dans le canton de Trappes en juin dernier, il avait obtenu un peu moins de 3% des suffrages. Et enfin, Patrick Planck, qui est candidat lutte ouvrière, qui est un cheminot, lui, que nous avions également reçu ici sur le 88.4. On recevra d'ailleurs à partir de la semaine prochaine tous les candidats pour qu'ils viennent proposer, présenter leur projet pour les trappistes. Seconde information donc dans ce flash d'actualité locale, c'est le forum d'association donc de la ville de Trappes qui aura lieu ce samedi, donc le 11 septembre, de 9h à 17h45 au gymnase Youri Gagarine, donc rue Courtade. Attention, le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires. Vous pourrez d'ailleurs vous faire tester et ou vacciner au centre Covid qui se trouve juste à côté du gymnase Gagarine, donc de Allée Antoine de Saint-Exupéry. Puis j'en profite pour improviser cette information puisque j'ai notre second invité qui est juste en face de nous. Les portes ouvertes de Artisans du Monde Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est ce samedi également. C'est toute la journée, donc n'hésitez pas à vous y rendre. On en parle juste après notre entretien avec Bertrand Mesure. passé de 32 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4, toujours avec notre invité Bertrand Mesure, donc co-secrétaire départemental du SNUIPPFSU, syndicat d'enseignants du primaire, avec nous pour parler bien sûr de la rentrée scolaire qui a eu lieu la semaine dernière. D'ailleurs, une petite correction que me souffle à l'oreille notre technicien, les propos qu'on a entendus de Jean-Michel Blanquer n'étaient pas sur France Info, mais sur France 3. Voilà, c'est là-bas qu'il est, c'est sur cette chaîne qu'ils avaient tenu. Alors, Bertrand Mesure, il y a un appel intersyndical à la grève donc le jeudi 23 septembre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer donc pourquoi cet appel à la mobilisation, à la grève ?
Cet appel à la grève est essentiellement sur deux points. C'est à la fois sur les conditions de travail qui, au-delà de la crise sanitaire, se sont très profondément dégradées ces dernières années, hein, avec une volonté du ministère de caporaliser le moindre acte d'enseignement, le moindre geste professionnel, et de l'inscrire dans des pratiques et une idéologie qui est absolument que la plupart des enseignants ne partagent pas. Et puis le deuxième point, c'est la nécessité d'un collectif budgétaire pour améliorer les moyens qui sont donnés à l'enseignement. Les écoles vont très mal, hein, on l'a vu à l'occasion de cette crise sanitaire, que ce soit l'hygiène, que ce soit l'entretien des bâtiments, que ce soit l'aération, etc. Tout ça ne fonctionne pas. À chaque vague de froid ou à chaque canicule, on s'aperçoit qu'il est quasiment impossible de travailler dans les locaux scolaires. Il y a eu un désinvestissement massif sur l'ensemble de l'éducation depuis un certain nombre d'années et on est en train d'en payer le prix. Je vais donner juste un exemple. Hier, on discutait, on était en CHSCT académique, on discutait de
CHSCT
académique, c'est-à-dire comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Et on parlait des capteurs de CO2, les fameux capteurs de CO2 qui permettent de mesurer la qualité de l'aération dans les locaux. Et il faut savoir que il y a un décret qui est paru en 2015 qui, sur la qualité de l'air intérieur, et en particulier pour tout ce qui est établissement scolaire, et tous les établissements du premier degré devaient avoir fait un diagnostic en 2018 et tous ceux du second degré en 2020. Force est de constater que ça n'est pas le cas, que quand il y a un diagnostic, eh bien, il y a un diagnostic, merci, voilà, et que si on avait pris la peine de prendre en compte ces diagnostics et d'en tirer les conclusions qui s'imposaient, on n'en serait pas aujourd'hui à essayer de savoir si, au moment d'une pandémie, les locaux scolaires sont adaptés à une aération, parce que On l'a vu toute l'année dernière, on se retrouve typiquement dans des conflits de valeurs au moment de faire ces gestes-là. Est-ce qu'on va ouvrir la fenêtre en plein hiver et avoir froid pour être bien aéré, ou est-ce qu'au contraire on va fermer ? Si je prends par exemple le cas de certains départements, les départements qui vont acheter des capteurs de CO2, mais tout ça aurait été fait de façon beaucoup plus utile et de façon beaucoup plus intéressante si ça s'était fait au moment où ça aurait dû se faire. Et là, on se retrouve dans une situation où on est obligé de subir et de courir après, parce que les départements, les collectivités locales, et puis je dirais la nation dans son ensemble, n'ont pas fait l'effort qui était nécessaire pour mettre les locaux scolaires à niveau. C'est quand même quelque chose que l'on doit à nos enfants. Quand on entend le président de la République...
Qui était à Marseille, justement, qui a annoncé des moyens. Alors, j'ai pas compris si c'était uniquement sur Marseille ou si c'était plus largement, en tout cas, un milliard d'euros qui ont été annoncés.
Je sais pas. De toute façon, c'est comme toujours. C'est l'effet d'annonce. On en parlait tout à l'heure pour Jean-Michel Blanquer. Là aussi, on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'on fait un constat de désastre. Les écoles de Marseille sont dans un état indigne d'une nation comme la nôtre. Elles ont été abandonnées par la collectivité locale pendant des années. Et qu'est-ce que nous dit notre président de la République ? Il nous dit que ce qu'il faudrait faire maintenant, il faudrait que chaque directeur recrute ses enseignants, on ne voit pas très bien le rapport, et que, de toute façon, il faudrait que maintenant l'éducation nationale soit de plus en plus territorialisée. C'est-à-dire qu'on va renvoyer la responsabilité, alors pour l'instant c'était une responsabilité sur les locaux, mais on va aussi renvoyer la responsabilité de ce qui se passe dans les écoles, les collèges et les lycées aux collectivités locales. Et quand on voit par exemple le désastre que ça a produit à Marseille, on s'éloigne et on va se retrouver avec une éducation, un système éducatif à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que là où les collectivités joueront le jeu, il y aura un système éducatif de qualité, et pour autant qu'elles en aient les moyens aussi, parce que c'est aussi une question de moyens. Et là où les collectivités locales feront comme M. Godin à Marseille, c'est-à-dire abandonneront l'école...
Ancien maire de Marseille.
Ancien maire de Marseille, eh bien, on se retrouvera devant un désastre infini. Tout ça n'est pas satisfaisant. Nous sommes attachés, nous, à la FSU et au SNUIPP, à un cadre national qui garantisse un haut niveau d'exigence pour l'ensemble des élèves, quel que soit le territoire, quel que soit l'âge, et quel que soit leur parcours de vie et leur parcours scolaire. On en est très loin. C'est pareil pour tout ce qui est inclusion des élèves en situation de handicap. On ne peut que constater la déshérence de tout ce qui est secteur infanto-juvénile, qu'il soit social ou médical. Et c'est à l'école maintenant de pallier toutes les difficultés que peuvent rencontrer les parents à faire suivre leur enfant, à trouver des soins adaptés à la situation de leur enfant. Et l'école va accueillir, il faut qu'elle accueille. Et on met pour ça en place des auxiliaires de vie scolaire, des AESH qui sont payés très mal, qui n'ont quasiment
AESH
pas...
AESH qui sont justement ces personnes qui vont accompagner par exemple des enfants handicapés dans une classe pour pouvoir les aider à suivre une scolarité. Il y a eu un changement d'ailleurs au niveau des contrats, vous me direz s'il y a une... avant il y avait des CDD renouvelables. Il y a une petite... Bon, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail.
Dans le détail, mais on va dire que... Il y a une certaine forme de résorption de la précarité qui était le lot commun de ces personnels auparavant. Et on va, pour beaucoup d'entre eux, vers une CDIsation. Mmh. Mais à quel coût et à quelles conditions ? Ils ont eu une toute petite revalorisation cette année, mais qui est très loin d'être ce que nous souhaitons, c'est-à-dire un vrai service d'auxiliaire de vie scolaire avec des gens formés et qui soient suffisamment bien payés pour avoir envie et les motivations pour faire ce métier. C'est vrai aussi pour les enseignants. Tous les concours de recrutement, maintenant c'est vrai aussi pour le premier degré, éprouvent des difficultés à trouver des personnels parce que les conditions de travail, la rémunération, la considération que nous avons de la part de notre ministre n'incitent pas les jeunes, et en particulier à Bac plus 5, à aller vers l'éducation nationale. Donc tout ça est quand même très inquiétant, d'autant plus que les projets de Jean-Michel Blanquer, dans la droite ligne de l'Institut Montaigne, c'est d'abandonner le collège unique, c'est-à-dire de revenir sur la réforme Habille de 1975, qui, qui effectivement n'a pas réussi, mais parce que les moyens n'ont jamais été mis à hauteur des ambitions, mais qui, pour autant, c'est pas pour autant qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Et pour autant, on va abandonner le collège unique, on va faire des collèges innovants, comme par exemple
Mantes-la-Jolie.
Mantes-la-Jolie, et c'était d'ailleurs une proposition sur Trappe aussi. Et ces collèges innovants, en fait, sont une façon de masquer les renoncements et en particulier pour les élèves les plus en difficulté. Et à côté de ça, on va promouvoir des écoles où les enfants rentreront de la maternelle jusqu'au lycée, seront dans ce qu'on appelle des EPLI, c'est-à-dire des établissements qui seront une forme de tuyau d'or, c'est-à-dire vous rentrez dans le bon établissement et vous y allez jusqu'à la fin. Et ceux-là auront des dotations qui seront à la hauteur des exigences des parents qui, comme par hasard, ces établissements vont être ouverts à Neuilly, à Passy, à Courbevoie, là où on veut attirer les banques anglaises qui vont quitter la City de Londres. Tout ça n'est pas satisfaisant, et ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait un sursaut de la profession, et puis peut-être aussi à l'occasion de l'élection présidentielle, qu'il y ait un sursaut pour dire que là, clairement, on va dans le mur. On va dans le mur. J'ajouterais que l'objectif de notre ministre est d'avoir 40% de contractuels dans les écoles, les collèges et les lycées très rapidement. Donc, on sait bien ce que produit la contractualisation, c'est-à-dire personnels qui ne sont pas assez formés. Déjà que les titulaires ne le sont quasiment plus, des personnels qui ne sont pas assez formés, qui ont un statut précaire et qui, à tout moment, peuvent partir. Hein. Je sais que les services académiques essayent de fidéliser les contractuels, mais ils ont beaucoup de mal parce que les conditions de travail et les rémunérations sont telles que dès que quelqu'un peut aller ailleurs, il s'en va. Voilà.
Du coup, c'est compliqué. Donc voilà, tout ça, c'est les raisons notamment pour lesquelles vous appelez à manifester le 23 septembre. On aura l'occasion d'en reparler sur Marmite FM. Merci beaucoup, Bertrand Mesure, d'être venu à Marmite FM. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire départemental du SNIPP FSU, syndicat d'enseignants du primaire.
Merci. Nouradine.
Allez, sans transition, petite pause musicale avant de parler avec Artisans du Monde, des journées portes ouvertes et de la déforestation importée. Qu'est-ce que c'est ? Tania nous dit ça dans quelques instants. À tout de suite.
Laisse-moi te faire danser, t'entraîner sur ce son pour rêver. Laisse-moi te faire oublier tous tes soucis, je t'emmène t'amuser. Laisse-moi t'inviter à danser, t'inviter à rêver, me laisser te tester, se laisser ambiancer, bouger, se déhancher, se laisser aller. Oh, je t'emmène avec moi, je t'emmène avec moi. Je remplirai ta vie de sourires, d'amour et de joie. D'amour et de joie,
c'est ça,
de sourire et de soi. Je remplirai ta vie d'amour et de joie, de sourire et de soi. Je remplirai ta vie.
Beka Willy, Beka Willy, Beka Willy, Beka Willy, Kana Donke. Comment va Beka Willy? Beka Willy, Beka Willy, Beka Willy, Beka Willy, Kana Donke. Beka Willy, Beka Willy, Beka Willy, Beka Willy, Kana Donke.
C'est ça.
Beka Willy, Beka Willy, Beka Willy, Beka Willy, Kana Donke. Na Donke.
Viens danser, ce, viens danser ça, viens danser. Comment viens danser, viens danser ce, viens danser ça, viens danser. Je t'invite à venir danser avec moi. Oublier tes soucis, tes peines, viens suis-moi. Au voyage vers l'amour et la joie. Mets de côté tes soucis, tes ennuis. Aujourd'hui c'est amour, joie, musique et folie. Mets de côté tes soucis, tes ennuis. Je t'emmène voyager dans mon Afrique, c'est promis. Mets de côté tes soucis, tes ennuis. Arrive le soleil après la pluie. Oh, viens danser. Nadonke, nadonke, kopeka wili kana, nadonke, nadonke, kopeka wili kana, nadonke, nadonke.
Remplir la vie d'amour et de joie, c'est le message d'Abou, notre artiste Afripop. Ah ben, qu'on aimerait bien recevoir, hein. D'ailleurs s'il nous écoute, hein, peut-être à l'occasion pour venir nous parler de ses nouveaux projets. Abou donc, artiste trappiste, hein, qui s'exporte à l'international, notamment du côté du Mali. 17h passées de 46 minutes, 47 minutes pour être précis. Et on va passer tout de suite à la seconde invitée de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Bonjour Tania, j'espère que le micro fonctionne.
Bonjour oui. Noradine.
Ça marche. Alors c'est la première de la saison, alors c'est pour ça qu'il y a des petits ajustements techniques, des petits problèmes techniques pour tout régler. Ça va Tania ?
Très bien, merci. On a le sourire, artisan du monde.
Bah justement, c'est la première question que je vous pose, Sonia. N'importe quoi. Tania, vous êtes arrivée avec le sourire. Artisan du monde a le sourire. Bah, expliquez-nous pourquoi.
Eh bien, on est content de faire cette rentrée qui se passe un petit peu mieux chez nous qu'à l'Éducation nationale. nous sommes une petite boutique, donc nous respectons un certain tous les gestes barrières et consignes d'hygiène, mais puisque nous n'avons pas besoin de montrer patte blanche. Par contre, on se nettoie les mains en arrivant dans la boutique et puis c'est tout.
Vous respectez les gestes barrières quand même, comme on les appelle.
Tout à fait, on porte le masque, on nettoie ce qu'il faut. Notre mois d'août de cette année a été supérieur du point de vue chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, ce qui était franchement inattendu. On vient de recevoir le nouveau catalogue de produits artisanaux pour l'automne-hiver, avec de jolies nouveautés qui vont arriver petit à petit avant Noël. Et justement, on commence déjà à préparer notre mois de novembre-décembre, puisque l'an dernier, tout a été annulé. Mais pour réussir ceci, nous avons un
besoin de bénévoles.
Ouais. Et oui, on a besoin de recruter quelques nouveaux bénévoles pour étoffer nos équipes et garder nos anciens bénévoles en bonne santé et sans surmenage.
On peut peut-être préciser, Tania, quelles sont les conséquences là ? Parce que l'année dernière, vous n'avez pas pu faire toutes vos actions avec la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des conséquences sur les producteurs, les productrices et, ou est-ce que vous avez réussi quand même à limiter la casse ?
On a fait notre maximum, justement, dans l'intérêt des producteurs, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Mmh. Encore maintenant, nous n'avons rien qui vient d'Inde. Mmh. Ils sont encore tous confinés. Ils ne sortent plus de chez eux.
D'accord. Impossible de produire.
Impossible de produire. Et leurs organisations sont en train de leur distribuer de l'aide alimentaire. D'accord. Donc, c'est pour eux que nous nous décarcassons. Et il y a eu des problèmes de transport, de prix de conteneurs, un tas de choses dans le commerce international. Personne n'a fait exprès pour mettre les bâtons dans les roues de qui que ce soit, mais la situation, les conséquences sont toujours pires pour ceux qui sont déjà dans la précarité. Mmh. Et ça nous désole. Et du coup, on veut essayer de dynamiser tout ça samedi prochain.
Voilà, donc samedi 11 septembre de 10h à 18h. Alors, c'est dans votre boutique, donc Artisan du Monde à Guyancourt, au Mail des Saules. Vous nous redonnerez l'adresse exacte tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement pour, pour ces journées portes ouvertes ? Pour cette journée portes ouvertes, c'est une journée, pardon.
Oui, c'est une seule journée parce que même si on a été ouvert le dimanche pendant les périodes de restriction, maintenant on n'est ouvert que 6 jours par semaine. On n'est pas loin du lycée agricole de Guyancourt. Ouais. Eh bien, pour cette journée, nous avons fait connaître de nouveaux produits, notamment nos jus de fruits de Madagascar. Mmh. Madagascar, qui pour un pays qui n'est pas en guerre, connaît une famine catastrophique. Mmh. Nous faisons aussi la rentrée des livres. Nous vendons des livres de l'éditeur Rue du Monde qui permet aux enfants défavorisés de partir en vacances. Mmh. Donc, nous participons à cette action. On fait une petite braderie d'articles d'artisanat de petites choses. Mmh. Et pendant que les autres bénévoles vont s'occuper de ça, moi, je vais faire des jeux éducatifs.
Ça, c'est votre truc, ça, hein, les animations.
Ah, ça, j'adore.
Les choses avec le public.
Pour petits et grands, et selon le public du moment, soit ça sera un jeu sur les labels bio pour apprendre à distinguer un label sérieux d'un label fantaisiste de greenwashing. Et ma nouvelle idée, que je n'ai jamais encore mise en pratique, c'est justement parler d'une façon indirecte de la déforestation importé.
Mot un petit peu bizarre, déforestation importée. Alors, bon, Tania, je sais que vous n'allez pas tout nous dire parce que sinon, sinon les auditeurs, les auditrices vont se dire, bon, bah, c'est bon, elle nous a tout dit, on ne va pas aller les voir. Mmh. Mais voilà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la déforestation importée ?
On accuse notamment le soja, mais puisque ce n'est pas quelque chose que nous vendons, je parlerai plutôt du café et du cacao, mmh. D'être responsable de la déforestation en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Ce qui est vrai si ce sont des produits de l'agro-industrie. Si par contre ce sont des produits de nos partenaires qui pratiquent l'agro-industrie, foresterie.
Qui est différente, oui.
Absolument. Notre cacao et notre café poussent au milieu d'autres arbres. Nos jouets en bois n'ont nécessité qu'on coupe aucun arbre. Ils bénéficient des chutes et de ce qui est déjà par terre. Donc, quand nous achetons du café de grandes marques ou de chocolat discount, nous achetons un produit qui a été responsable d'une déforestation ailleurs.
D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on importe la déforestation. D'accord.
Voilà.
C'est comme si on importait. Oui.
Par des jeux avec des photos, je veux faire le lien entre la déforestation ailleurs ou ici, avec le lien avec le climat, avec certaines maladies, mm-hmm. notamment l'Ebola, et sans oublier la condition des producteurs qui reste toujours primordiale pour nous.
D'ailleurs, vous m'avez transmis une information intéressante avec l'annonce dans le plan climat du ministère de la Transition écologique et solidaire, récemment voté, qui annonce un objectif de zéro déforestation importée en 2022. Est-ce que c'est possible, ça ?
Mais c'est encore un coup d'annonce. Ouais. On a parlé de celle de Jean-Michel Blanquer. Eh bien, voilà une autre. annonce. Je suis allée fouiller dans les textes. Effectivement, pour le moment, il n'y a qu'un observatoire. Alors, cet observatoire est absolument inutile parce que on connaît la situation de la forêt amazonienne, de l'Indonésie, d'autres endroits. Tout ça, ce n'est pas un secret. Il n'y a pas besoin d'observer, il y a besoin d'agir. Nous espérons que quand la France prendra la tête de l'Union européenne pour 6 mois, elle prônera une réelle politique qui permettra de réaliser ce, sinon ce sera un vœu pieux. Voilà.
Ce sera l'occasion d'en parler avec vous, Tania, samedi de 10h pardon, à 18h, Maëlle Desaules, donc c'est à Guyancourt, juste de visiter aussi votre belle boutique Artisan du Monde. Vous restez avec nous quelques instants, Tania, on va donner la parole à Pierre Joannet de l'UFC Que Choisir qui nous parle de la chaîne du froid, puis après on se dit au revoir, à tout de suite.
Ok.
La Minute Consommateur avec Pierre Joannet.
Les Français sont de plus en plus soucieux de leur bien-être et de leur santé, selon un article publié par Florian Billot. L'alimentation est devenue un point sensible et le souci du respect de la chaîne du froid en fait partie. Véritable nécessité, il est cependant difficile de la respecter dans son intégralité. Pour éviter tout risque d'intoxication lié à la chaîne du froid, il est essentiel de mettre en place une routine lorsque vous vous rendez dans votre supermarché. La première étape se fait dès lors que vous mettez le produit congelé dans votre caddie ou votre panier. Il est important de le placer dans un sachet adéquat qui va conserver au maximum la fraîcheur et la température de votre aliment. Le sac isotherme représente la solution idéale, mais attention à ne pas trop se reposer dessus. En effet, il est préférable de prendre les produits frais choisis à la toute fin de vos achats. Par ce biais, vous allez réduire au maximum le temps de trajet entre l'achat et l'arrivée à votre domicile. De la même manière, achetez vos produits frais ou congelés dans le même établissement, afin qu'ils ne stagnent trop longtemps dans votre véhicule. Évidemment, placez-les immédiatement dans votre réfrigérateur ou congélateur, selon le type de produit. L'hygiène de votre réfrigérateur ou congélateur est primordiale pour éviter tout risque d'intoxication. Si vous pensiez que le nettoyer uniquement pendant le grand nettoyage de printemps est suffisant, vous vous trompez grandement. Si vous n'êtes pas un fan de rangement, vous allez tomber de haut. Il est en effet conseillé de dégivrer et de nettoyer vos appareils 2 fois par mois. Pour ce faire, il faudra utiliser de l'eau savonneuse et javelisée à tout prix. Une fois propre de fond en comble, il faudra impérativement respecter certaines températures selon les produits. Ainsi, pour tout produit congelé, il faudra le placer dans un compartiment où la température se situe à moins 12 degrés. Les aliments surgelés, quant à eux, se devront d'être à une température minimum de moins 18 degrés. Cela peut vous paraître futile, mais l'emballage est d'une importance capitale dans la préservation de vos aliments et dans le respect de la chaîne du froid, et ce, dès l'acte d'achat. En effet, il vous faudra inspecter minutieusement l'emballage du produit afin de vérifier tous les trous et fuites potentiels. Ces mêmes trous peuvent avoir comme incidence la prolifération et la colonisation de bactéries sur l'ingrédient que vous allez consommer. Cela est particulièrement vrai pour les produits destinés à être consommés crus. Petit conseil, prenez soin de ranger vos aliments soigneusement et sans brutalité. Un fruit qui va s'écraser au fond de son emballage, un morceau de viande mal emballé, un sac de poisson mal mis sous vide sont de véritables opportunités de développement pour les bactéries. Respecter la chaîne du froid est un exercice de tous les instants qui prend forme dès votre visite au supermarché. Tâchez de vérifier l'emballage de votre produit avec minutie et de le transporter le plus rapidement possible vers votre domicile dans un sac adapté. Placez-le avec soin dans un réfrigérateur ou congélateur. Nettoyez régulièrement.
Eh bien, il nous a donné la pêche, hein, Pierre Joannet. On va être obligé de laver notre réfrigérateur 2 fois par mois. C'est sympa. Merci en tout cas beaucoup, Tania, d'être venue sur les ondes de Marmite FM pour nous parler des journées portes, de la journée, pas j'ai du mal, hein, de la journée porte ouverte. Il n'y en a qu'une. Donc, c'est ce samedi de 10h à 18h du côté de Guyancourt. Et puis, alors là, on invite tous les auditrices, les auditeurs à s'y rendre. Merci.
Merci. Sachez que nos portes sont souvent ouvertes, même pas uniquement ce samedi. Au revoir.
Merci, merci beaucoup Tania. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Marmite fait son actu, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine.
Marmite fait son actu, tous les mercredis de 17h à 18h, en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.